Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, camion suspect intercepté à Boulsa par des populations, le haut commissaire du Namantenga rassure que des investigations plus approfondies sont en cours pour faire toute la lumière sur ces événements. Bloqué pendant plusieurs heures hier par un mouvement d'humeur de plusieurs chauffeurs routiers, le trafic a repris normalement sur la route nationale numéro 1. En sport, éliminatoire du tournoi olympique de football féminin Paris 2024, les étalons dames affrontent ce soir en match retour à 16h temps universel les aigles du Mali. Du côté de la Côte d'Ivoire, les étalons juniors sont en finale du tournoi IFOAB des moins de 20 ans après avoir battu le Togo 1-0 en demi-finale. Le développement des titres dans un bref instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Débutons ce journal direction Boulsa dans le centre nord. Plusieurs jours après l'interception de camions chargés de marchandises par des populations de la ville, dans un communiqué en date de ce lundi 17 juillet, le haut commissaire de la province du Namantenga confirme effectivement que le mercredi 12 juillet dernier, 5 camions chargés de marchandises composés de pièces détachées, de motos, d'effets d'habillement, de cartons de radio, de cartons de peinture, d'une caisse photocopieuse, de cartons de gaz type camping gaz en direction de Dori et en transit à Boulsa ont été interceptés dans la ville par des populations. En plus de ces camions, poursuit le communiqué, le samedi 15 juillet, un autre camion transportant un conteneur contenant donc 61 personnes en provenance de Dori et se rendant à Ouagadougou a encore été arrêté à Boulsa. Après les vérifications effectuées par les services de sécurité, le camion a été autorisé à poursuivre son chemin selon le communiqué du Haut Commissariat du Namantenga avant de poursuivre que des investigations plus approfondies sont en cours pour faire toute la lumière sur ces événements. Retour à Ouagadougou où la route nationale numéro 1 à la sortie ouest de Ouagadougou au niveau du péage de Tanguendassouri a été bloquée pendant plusieurs heures hier par un mouvement d'humeur de plusieurs chauffeurs routiers. Après plusieurs heures de manifestation, le trafic a finalement repris normalement sur la route nationale numéro 1 et le calme est revenu. Plus de détails avec Solomon Ninkiema.
Après 6 heures de blocage, le trafic reprend sur la nationale numéro 1 sortie ouest de Ouagadougou au niveau du péage de Tanguendassouri. Selon des témoins rencontrés sur place, tout aurait commencé aux environs de 11 heures. Un cas d'une compagnie de transport en provenance de Ouagadougou a été rattrapé et arrêté au péage par la police municipale après de longs kilomètres de poursuite. Sadia Zungrana témoin.
C'était vers les 11h, on est là pour prendre son péage. La police municipale est venue embarquer, barrer la voie là, faire descendre le chauffeur là. Ça s'est passé comme ça.
Le chauffeur et le convoyeur seront embarqués par les éléments de la police municipale. C'est du moins ce qu'expliquent les témoins sur place. Ensuite, d'autres chauffeurs vont décider de barricader la route en soutien à leurs camarades arrêtés, d'où le bouchon créé dans la matinée de ce lundi. Nous avons tenté de comprendre ce qu'il en était. Selon nos informations, le cas aurait fait un embarquement hors gare, une infraction qui a suscité la réaction des hommes de la police municipale.
Merci à Solomon Ninkiema, cap sur le grand marché de Ouagadougou, encore appelé Rodwoko, où la tension était également vive dans la matinée d'hier. Des commerçants ont battu le pavé pour réclamer plus de sécurité au niveau du grand marché. Tout serait parti d'un cambriolage de deux boutiques dans l'enceinte du dit marché vendredi dernier. Un acte qualifié de trop par les commerçants qui demandent le remplacement de la sécurité sur les lieux. Le reportage avec Abdulaziz Zoulabou.
Ils ont fermé boutiques et magasins pour descendre dans la rue en vue de réclamer plus de sécurité pour leurs marchandises au grand marché. Plusieurs cas de vol ont été enregistrés sans suite et celui de ce vendredi était de trop selon les manifestants. Ali Sanfo, délégué des commerçants.
Ça fait 2 semaines qu'on a cassé 9 boutiques. On n'a même pas eu la porte jusqu'à présent. La police du ciel est venue faire le constat. Jusqu'à présent, on n'a même pas aucun résultat. Bon, le vendredi nuit, le samedi, on est venu trouver encore, on a cassé 2 boutiques. 1 boutique en haut, 1 boutique en bas. Maintenant, bon, voilà, le commerçant n'est pas content. Voilà la couleur. Les gens sont dit que voilà, si c'est comme ça, on va aller sur les autorités. La mairie a une structure qui s'appelle l'ADEI, qui est l'ADEI qui gère le marché.
Une délégation a été reçue ce lundi matin par l'ADEU, Agence pour le développement économique urbain, une structure de la mairie en charge de la gestion du marché à qui elle a transmis ses doléances. Ali Sanfo.
La manne gestion de Roroko, il faut terminer ça. Il faut changer la visible. La société de visible, on va changer. Deuxièmement, la police, la gestion de la police, en tout cas, on veut un changement. Troisièmement, éclairage. Il n'y a pas d'éclairage dans le marché. Et quatrièmement, il n'y a même pas de choses. Les camionnettes surveillées, il n'y en a pas. Donc, toutes les choses qu'il fait là, en tout cas, Roroko, là, il y a une manne gestion.
Le marché reste fermé pour la journée de ce lundi et les commerçants donnent un ultimatum de 2 semaines pour la résolution de toutes ces préoccupations, faute de quoi ils n'hésiteront pas à reprendre la lutte.
Tout autre chose dans ce journal, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflatés et retraités FONADER vient en appui aux activités lucratives des personnes retraitées et déflatées. Du 11 au 14 juillet, une cinquantaine d'entre eux ont reçu une formation sur la création et la gestion des activités génératrices de revenus. Ce samedi, le FONADER a organisé à leur profit une sortie de terrain pour visiter des projets portés justement par les retraités. Les détails avec Jean-Paul Ouédraogo et Soumina Traoré.
Donner aux personnes du troisième âge une deuxième activité professionnelle lucrative. C'est le vœu du Fonds national d'appui aux travailleurs déflatés et retraités FONADER qui offre cette formation à une cinquantaine de participants. Après la phase théorique, vient la pratique sur terrain. Destination choisie, Koubri, Saponé et Komsilga où les apprenants d'un autre type ont visité des élevages de volailles, une porcherie et un verger. Des exemples à suivre, une riche expérience à partager avec les apprenants. Mamadou Ouattara, participant.
Nous avons été très édifiés par ces différentes sorties qui viennent consolider les connaissances théoriques et pratiques que nous avons apprises à travers des formations. Et ces témoignages, donc, en eux-mêmes, constituent une école. Des cours pratiques, nous avons eu d'abord une vision, une conviction et qui se matérialise aussi et donc, en actes concrets. Et donc, ça donne aussi une visibilité par rapport à nos différents projets que nous avons conçus. C'est très comblé que nous repartons de cette visite-là organisée par le FONADER qui nous a permis quand même de balayer donc tous les aspects donc de la production à la commercialisation.
Pour le directeur général du FONADER, Omar Sibiri Compaoré, de telles activités sont bénéfiques pour assurer les vieux jours de ces retraités, mais aussi pour l'économie du pays.
L'ensemble de ces visites-là marque le couronnement d'une série d'activités que nous FONADER a organisé, notamment des formations. L'intérêt fondamental, c'est vouloir allier la théorie et la pratique. Mais au-delà de tout, il faut dire que le rôle fondamental aussi du FONADER, c'est d'occuper les retraités. C'est du volontariat. Ils peuvent utiliser cette expérience pour participer à la production nationale, à la productivité nationale. Et nous sommes très satisfaits parce que nous voyons beaucoup de retraités qui nous appellent pour dire que non, avant je ne faisais rien, j'étais assis à la maison. Mais aujourd'hui, ça me permet de bouger, d'être en activité. C'est déjà même une satisfaction morale pour le FONADER.
Pour tous les travailleurs du secteur public, parapublic et privé, retraités ou ayant perdu leur emploi, il est possible d'obtenir un accompagnement financier après des formations octroyées par FONADER. Ce fonds a été créé en février 2008 pour prendre en charge les groupes vulnérables du monde du travail, que sont les travailleurs déflatés et retraités.
Accompagnement des populations victimes de l'insécurité au Burkina Faso et au Niger, en vue donc de venir en aide aux populations victimes de terrorisme, 8 organisations partenaires réunies en consortium avec l'appui financier de l'Union européenne ont initié le RECOSA, le projet de renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières du Burkina Faso et du Niger. Après 4 années de mise en œuvre, l'heure est au bilan pour les acteurs du RECOSA. Ils ont organisé une journée pour présenter les résultats du projet, une présentation visuelle marquée par une exposition photo des grandes activités réalisées. C'était hier lundi 17 juillet en présence du directeur du cabinet du ministre donc en charge de l'action humanitaire, de celui de l'Union européenne et des organisations partenaires. Judith Traoré pour le compte-rendu.
Les photos expliquent quatre principales activités.
Cette exposition photo, ici commentée, retrace l'ensemble des activités du ROCOSA, le projet de renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières du Burkina Faso et du Niger. Il vise le renforcement de la résilience des communautés, des ménages et des individus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et de la cohésion sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières du Burkina Faso dans la région du Sahel et du Tillabéri au Niger. Et pour y arriver, le projet est axé sur 5 principaux résultats. Fabrice Yonli, coordinateur consortium ROCOSA.
Un premier résultat qui porte sur les filets sociaux. Un deuxième résultat qui est axé sur le renforcement du système de santé et l'amélioration des conditions d'hygiène des populations. Un troisième résultat qui porte sur le renforcement et la protection des moyens d'existence des ménages. Le quatrième résultat qui est axé sur la gouvernance locale inclusive. Et un cinquième résultat qui porte sur la cohésion sociale.
Au total, 7000 personnes ont bénéficié de ce projet, dont 3000 au Burkina Faso, dans les provinces du Sénou et du Yaga. Pour sa mise en œuvre, le ROCOSA bénéficie du soutien financier de l'Union européenne à hauteur de 17,5 millions d'euros. Au regard des résultats présentés, le partenaire financier se dit satisfait. Diego Escalona Paturel, premier conseiller de la délégation de l'Union européenne au Burkina.
Nous sommes très satisfaits par ce projet, très satisfaits aussi par le partenariat qui a pu être établi avec le ministère de l'aide humanitaire. Et je saisis cette occasion pour confirmer que l'Union européenne appuie le Burkina dans cette période que vit le pays et continuera à le faire au profit des populations.
Exécuté depuis le 13 décembre 2019, le projet prend fin le 12 décembre 2023.
Un ouf de soulagement pour les personnes déplacées internes de l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou qui retrouvent le sourire au moins le temps d'une journée. Elles ont reçu dimanche dernier un don constitué de sacs de vêtements, de cartons, de jouets pour enfants. Un don collecté par l'association ICAP, International Community Aids of Burkina, pour soutenir l'effort de guerre. L'objectif de ce don est de favoriser l'épanouissement des personnes impactées par les attaques terroristes. On en sait plus avec Fawzia Zongo.
Plusieurs ménages déplacés et installés dans la périphérie de Ouagadougou, arrondissement 4, bénéficient de ce don. À travers des sacs de vêtements et des cartons de jouets pour enfants, l'association International Community Aids of Burkina veut ainsi soutenir les victimes des attaques terroristes et continuer à juguler la crise humanitaire à laquelle le pays fait face. Un geste qui soulage, selon les dires de Adjatou Zeri, une déplacée venue de Gorgadji.
Vu que nous sommes déplacés, nous ne connaissons pas quelqu'un ici. Avec ces dons-là, ça va beaucoup nous servir. Je suis vraiment contente. Je tiens à dire à l'association merci d'abord pour l'initiative. Et en plus de ça, je vais faire des doléances auprès de l'association pour pas qu'ils vont nous oublier. Parce que vraiment, nous sommes ici, il n'y a pas d'activité. Quelqu'un qui s'est déplacé, venu, il a vraiment besoin d'aide.
L'association ICAB a redonné le sourire à ces personnes déplacées internes grâce à la bonne foi des Burkinabés d'ici et de l'extérieur. Elle compte aller au-delà de ce don et prévoit dans les années à venir des dons en denrées alimentaires afin de participer au bien-être social des personnes déplacées internes. Cheikh Mohamed Ouedraogo est le responsable de l'association ICAP.
Nous allons continuer parce que nous avons débuté l'année passée sur le site de Pazani. Cette année, nous sommes sur ce site et l'année prochaine, nous allons encore aller dans d'autres sites. Et nous espérons que l'année prochaine, nous ne nous limitions pas uniquement aux vêtements. Nous souhaitons avoir peut-être des vivres. L'année passée, par exemple, nous avons eu la chance d'avoir des lingettes pour femmes. Nous avons eu des savons et même de l'huile. L'année prochaine, si nous pouvons avoir des sacs de riz, et autres, des vivres, ça m'a vraiment aidé beaucoup.
Créée en mars 2023, l'association International Community AIDS of Burkina est une association à but non lucratif et a pour objectif de venir en aide aux personnes défavorisées et aux personnes déplacées internes afin de contribuer à leur bien-être social.
Actualité internationale au Tchad, la ville d'Adré, engloutie sous le flux de réfugiés soudanais. Ce sont jusqu'à 2000 réfugiés soudanais qui arrivent chaque jour dans la ville frontalière d'Adré, à l'extrême est du pays. Les autorités locales lancent donc un cri d'alarme car la ville est engloutie sous les tentes et les abris de fortune et les services sociaux sont totalement débordés malgré la réponse des humanitaires. Pour Adou Mahamat Amat, coordonnateur départemental de la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés, la situation est explosive. Les ressources d'existence telles que la santé, la nourriture, l'eau, les abris pour l'assainissement, tous ces abris n'auront pas une capacité de réponse à cette population qui a doublé. De nombreuses surfaces cultivables sont occupées par les réfugiés. Le gouvernement a donc alloué des terres pour l'édification d'au moins 3 nouveaux camps. Toujours à l'international, Israël reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Maroc a annoncé hier lundi 17 juillet qu'Israël reconnaît la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. 2 ans après le rétablissement des relations entre les deux États, le cabinet royal a annoncé en fin d'après-midi ce qu'un haut responsable diplomatique marocain estime être la confirmation de la dynamique positive de ces dernières années. De son côté, Jérusalem n'a pas encore annoncé officiellement sa décision, mais le cabinet royal marocain affirme avoir reçu une lettre du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Omega Sport.
Actualité sportive en football, je vous l'annonçais en titre, les étalons d'âme tenteront d'arracher ce soir à 16h temps universel leur ticket pour la suite des éliminatoires des Jeux Olympiques de football féminin Paris 2024. Au match aller, Pascal Sawadgo et ses filles se sont inclinés à domicile 1-0 hier lundi. En terre ivoirienne, les étalons des moins de 20 ans se sont qualifiés pour la finale de la Coupe UFOA-B U20 en battant les éperviers U20 du Togo 1-0 en demi-finale au stade Robert Champrou de Makori. Le point complet de l'actualité sportive avec Bernabé Cabré.
Bonjour et bienvenue au sport. Les étalons juniors sont en finale du tournoi UFOA-B qui se joue à Abidjan contre le Togo hier après-midi au stade Robert Champrou. Les Burkinabés se sont imposés 1-0 suite à une réalisation d'Abdoulkader Ouattara à la 85e minute de jeu. Les étalons sont jusque-là intraitables avec un bilan de 4 victoires en 4 matchs, 6 buts marqués et 0 encaissés. On écoute le coach burkinabé, Brahma Traoré.
Nous sommes satisfait du rendement des enfants. Ce sont des enfants qui ont soif et aussi qui veulent progresser. Donc ils sont à l'écoute, ils sont réceptifs et c'est le travail de longue haleine qui a payé ce soir parce qu'on les prenait à régime externe, à Bobo, à Ouaga, on les entraînait. Nous sommes arrivés, c'est-à-dire à trouver une équipe homogène où les joueurs se complètent vraiment.
En finale, le Burkina Faso va affronter la Côte d'Ivoire qui a éliminé le Bénin à l'issue des épreuves de tir au but. Le score au coup de sifflet final était de 2-2. Les étalons d'âmes sont face à leur destin dans les éliminatoires du tournoi olympique Paris 2024. Battu il y a une semaine 1-0 par le Mali à Bamako, l'équipe burkinabé doit tout faire pour renverser la situation à Bamako. Une mission difficile, mais pas impossible, selon la capitaine des étalons, Balkissa Sawadgo.
Nous avons eu mal lors du match aller et nous pensons que c'est le moment pour nous de prendre les choses en main et d'arracher cette qualification. Il y a la confiance. Certes, elle n'est pas trop grande pour ne pas sous-estimer l'adversaire, mais nous avons confiance en nous et nous pensons que ça pourra aller.
Coup d'envoi du match Mali-Burkina Faso, 16h30. Mercato à présent, l'Olympique de Marseille se rapproche d'un gros coup. Le club français pourrait arracher la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui bloque actuellement les discussions. Le salaire de l'attaquant gabonais estimé à environ 117 millions de francs CFA par semaine. Mais l'Olympique de Marseille aurait convaincu Pierre-Emerick Aubameyang, qui est prêt à faire un gros effort financier. Kylian Mbappé a repris hier lundi les entraînements avec le Paris Saint-Germain. Il participera aujourd'hui à sa première séance collective en présence du président Nasser Al-Khelaifi. Rappelons que le PSG a lancé un ultimatum à Mbappé qui doit prolonger ou partir avant le 31 août afin d'éviter un départ libre en 2024. Et on reste avec le Paris Saint-Germain à la recherche d'un concurrent pour son gardien Gianluigi Donnarumma. Le club français étudie la piste Hugo Loris. L'Inter Milan est aussi intéressé par le profil du français pour remplacer André Onana qui va signer à Manchester United. À noter que Hugo Loris aurait refusé les propositions de la Fiorentina et d'Al Hilal d'Arabie Saoudite. Poussé vers la sortie par Manchester United qui lui a retiré le brassard de capitaine, Harry Maguire se trouve sur les tablettes de West Ham et Tottenham et un troisième club du championnat anglais pourrait se joindre à la bataille pour signer le défenseur central. Il s'agit de Chelsea qui a notamment perdu son défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, parti à Al Hilal en Arabie Saoudite.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Fidel Compaoré à la présentation. Je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.